C'est la fin de cette série sur les psaumes, la symphonie des psaumes. C'est notre dernier chapitre, si je peux dire, avec le psaume 96 ce matin. Et je vous invite à le rechercher dans votre Bible. On va le lire ensemble. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu, merveilleux passage, merveilleux psaume qui exalte le Seigneur. La semaine prochaine, comme ça a été dit, nous aurons notre 20e convention missionnaire à l'EBTM. Nous organisons ces conventions pour nous aider à porter nos regards vers les nations, à porter nos regards vers les peuples non atteints, vers ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur et qui ont besoin d'en entendre parler. Parce que, eh bien, c'est l'ordre que le Seigneur nous a laissé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et donc le plan de Dieu, c'est véritablement de nous envoyer par le monde entier et pour que les hommes et les femmes de toute nation apprennent à célébrer Dieu, à glorifier son nom. Dans son livre « Que les nations se réjouissent », le pasteur John Piper écrit « La mission n'est pas le but final de l'Église. Le but final de l'Église, c'est la louange. La mission existe parce que la louange n'est pas encore complètement accomplie par les nations. Lorsque cet âge prendra fin, la mission n'existera plus, mais la louange demeurera toujours. Donc, la mission, c'est une nécessité temporaire, jusqu'à ce que les nations tout entières louent le Seigneur. Et quand vous ouvrez le livre de l'Apocalypse, vous voyez la fin. Et cette fin est merveilleuse. Toutes les nations de la terre célèbrent Dieu d'un même cœur. Ils célèbrent le Dieu créateur. Ils célèbrent Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé et qui a racheté nos âmes. Le psaume 96, lui, il est là pour établir le lien entre la louange de Dieu et l'œuvre missionnaire. Une adoration dynamique, c'est pas simplement le moyen de gagner le monde, mais aussi elle nous motive puissamment à le faire. Seul un cœur qui déborde de joie voudra communiquer la source de cette joie à ceux qu'il rencontre. Au fond, l'adoration nous met en présence des attributs de Dieu et nous pousse ensuite, nous propulse vers les autres pour leur annoncer ses attributs, ce qu'il accomplit. Et c'est pourquoi le psaume 96 commence avec ces paroles « Chantez à l'Éternel, chantez à l'Éternel, chantez à l'Éternel ». C'est un ordre qu'il nous donne ici. L'invitation, elle est pour tous. On verra cela On voit ça au verset premier. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Comme le dit le catéchisme de Westminster, le but principal de l'homme est de glorifier Dieu, de trouver son plaisir en lui pour toujours. Quel est le but pour votre vie? Pour quelle raison est-ce que Dieu vous a créé? Il vous a créé pour glorifier Dieu et puis pour prendre plaisir en son, dans sa présence. Et parce qu'on cherche notre but ailleurs, eh bien on est malheureux. Parce que quand on cherche notre but ailleurs, que dans ce motif-là, on s'égare. Si on cherche notre raison de vivre, notre sécurité, notre identité, que ce soit dans le succès, dans le pouvoir, ou dans notre famille, ou dans le sexe, l'argent, et même dans une religion, nous serons fatalement déçus. Parce que toutes ces idoles, c'est-à-dire tout ce qui va prendre la place de Dieu dans notre cœur, eh bien, toutes ces choses ne peuvent pas nous donner le bonheur qu'elles promettent. Toutes ces choses ne pardonneront pas vos péchés. Toutes ces choses ne vous donneront pas une espérance éternelle. Toutes ces choses ne sont jamais satisfaites. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps, encore et encore, eh bien, sacrifier pour elles. Seul Dieu est entièrement digne d'être glorifié. Chantez à l'Éternel. Comme quand on se réunit le dimanche matin pour chanter le Seigneur, je crois que c'est véritablement l'une des plus belles manières de glorifier Dieu. Parce que ce sont des voix de tout âge, de toute langue, de qui se réunissent et qui célèbrent le même Dieu. Lorsque nous chantons, nous annonçons qui est Dieu, ce qu'il a fait. Nous annonçons son salut. Nous racontons sa gloire parmi les nations. Nous racontons ses merveilles. Et du coup, ceux qui viennent au milieu de nous et qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui découvrent, qui s'approchent, ils entendent parler des merveilles de Dieu. Et ils se laissent interpeller. Alors, la question c'est, qu'est-ce que les personnes comprennent de Dieu lorsqu'elles viennent le dimanche matin dans notre culte? Lorsqu'elles nous regardent et lorsqu'elles nous entendent chanter ou ne pas chanter, que comprennent-elles? Est-ce que ces personnes comprennent combien le connaître est essentiel pour nous? Est-ce qu'elles comprennent que notre plus grand plaisir est de nous tenir dans sa présence? Est-ce qu'elles touchent un peu du doigt quelle est sa grandeur, sa bonté? Quel est son amour, sa justice? Est-ce qu'elles comprennent que leur vie sans Dieu est une vie sans couleur, sans parfum? Une vie qui passe rapidement et qui connaîtra une ruine éternelle? La question, c'est si elles ne comprennent pas ces vérités-là. C'est probablement que notre louange ne le dit pas. Je ne dis pas que nos cantiques ne sont pas bien écrits, ou qu'il n'y a pas une bonne théologie à l'intérieur, ou des vérités essentielles là. Non, je crois que les cantiques sont bien, et l'équipe qui travaille pour qu'on puisse chanter ces cantiques le font avec zèle. Le pasteur Samuel, il corrige parfois même certaines paroles, vous avez peut-être déjà remarqué, il complète pour enrichir la théologie, les vérités de nos cantiques. Mais alors s'ils ne comprennent pas cela, où est le problème? Je suppose que le problème, c'est que il y a une distinction entre les vérités qui s'affichent là sur notre mur, et puis la réalité qui nous pénètre, le désir de célébrer et d'exalter ces vérités-là. Le Seigneur nous a donné des voix, des instruments pour faire retentir qui il est et ce qu'il a fait. Vous vous souvenez comment vous avez chanté la Marseillaise il y a quelques semaines? Ou crié votre joie lorsque la France est devenue championne du monde de foot? Tout le monde chantait! Est-ce que notre Dieu est moins digne? Est-ce que sa victoire n'est pas plus grande et devrait être célébrée avec plus de force? Notez bien ici, ce n'est pas une option de chanter, c'est un commandement qui nous est donné à trois fois de suite. Chanter, chanter, chanter à l'Éternel. Ça veut dire que ne pas chanter, c'est un péché. Ne pas chanter, c'est un péché, par omission, mais c'est un péché. Et le péché nuit à notre âme. Il est possible que certaines, qu'on ne chante pas parce que ben, parfois on ne connaît pas le chant, juste. Alors on découvre et on bafouille, on essaye de trouver le rythme. Ok. Peut-être il est possible que vous ne puissiez pas chanter. Mon beau-père, par exemple, il a été opéré d'un cancer des cordes vocales. Il ne peut plus chanter. Il a même du mal à parler. Donc, ok. Peut-être aussi vous êtes étranger. Alors là, vous ne comprenez pas les paroles qui s'affichent. Je me souviens, j'ai chanté dans une église arabe. Voilà, je ne pouvais même pas lire le titre. Il y a des quarts de ton, j'étais complètement perdu. Je suis allé dans une église vietnamienne, j'étais même avec le karaoké, j'avais du mal à suivre. Ok, oublions toutes ces raisons-là. Ok. Mais si vous n'entrez pas dans une de ces catégories-là et que vous ne chantez pas, vous vous rebellez à Dieu. Examinez votre cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de chanter ces vérités avec force et avec conviction? Êtes-vous en train d'essayer de priver Dieu de ce que vous lui devez? Nous lui devons l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, des bouches qui célèbrent son nom. Vous avez remarqué, j'espère, qu'on a fait des progrès dans ce domaine. En tant qu'Église, on essaye avec la technique, avec les musiciens, avec... Voilà. Il y a une chose que Dieu doit faire, c'est dans notre cœur, encore, pour nous aider à célébrer de tout notre cœur ses louanges. La musique nous aide à exprimer des émotions, des sentiments qui doivent être en accord avec la Bible, bien entendu. Être enthousiasmé par la bonté de Dieu, sa puissance, sa gloire, son amour... Ça n'est que la juste expression de nos cœurs. Ne pas s'enthousiasmer devant les attributs de Dieu, c'est un péché. Et le recueil des psaumes, il est là pour nous inviter jour après jour, tantôt à crier notre joie, tantôt à dire notre misère et à confesser notre péché. Et donc chaque chant, chaque psaume, doit être chanté avec l'attitude de cœur appropriée. Chantez à l'Éternel. Le psaume commence « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Qu'est-ce que c'est un cantique nouveau? Surtout que là, ça fait déjà quelques siècles que les psaumes ont été écrits. Peut-être 3000 ans, alors est-ce que c'est ça le cantique nouveau? Un cantique nouveau, c'est une expérience nouvelle du croyant, qui célèbre le Dieu éternel, dont le caractère, lui, n'est pas nouveau. Mais c'est l'expérience qui est nouvelle et qui me pousse à célébrer Dieu avec un cœur nouveau. Je suis heureux d'entendre les nouveaux cantiques, les nouveaux chants qui racontent l'histoire ancienne, mais ô combien pertinente pour notre époque, du salut en Jésus-Christ. Merci au compositeur hein, qui proclame dans des mots d'aujourd'hui le salut, la délivrance, la victoire, la paix que Jésus-Christ nous a acquis par sa mort à la croix il y a 2000 ans. Vous comprenez qu'en chantant ces vérités avec les mots, les instruments et les mélodies d'aujourd'hui, les nations comprennent que le message est pour eux aujourd'hui. Il dit ici dans le psaume « Racontez parmi tous les peuples ces merveilles ». Lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé un jour coincé devant la mer rouge et pris par les armées de Pharaon, ils étaient terrorisés. Pour eux, c'était la fin. Ils étaient perdus. Et à ce moment-là, Moïse a prié l'Éternel et l'Éternel a ouvert la mer. L'armée de Pharaon est rentrée et a été engloutie dans les eaux. Qu'est-ce que Moïse a fait juste après? Moïse a écrit un cantique et il l'a fait chanter à tout le peuple. À tout le peuple. Et le peuple a avancé dans le désert avec ce cantique. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et puis, il a précipité Pharaon et son cavalier. Et nul n'est comparable à lui. Et les nations alentour ont appris ces choses-là. Ils ont appris ce que l'Éternel a fait pour Israël. Et ils ont commencé à craindre quand ils sont arrivés devant Jéricho. Rahab s'est approché et dit, mais acceptez-moi dans le peuple. Je sais qui est votre Dieu, je sais ce qu'il a fait pour vous. Vous voyez le lien avec la louange et puis l'évangélisation, la mission. C'est tellement fort. La chose, c'est que si on chante que des cantiques qui racontent les exploits de Moïse, on va finir par dire ici, mais c'est formidable, dommage que le Dieu de Moïse n'est plus là. Mais notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est ressuscité et les merveilles qu'il accomplissait autrefois, il les accomplit aujourd'hui encore. Les délivrances, il nous les accorde à nous, ses enfants, avec une grande fidélité. Vous vous souvenez quand on est rentré dans ces locaux? L'urbanisme nous avait dit, vous ne ferez jamais une église ici. Jamais. Il y aura 300 personnes dans cette salle. Jamais. On a continué à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Et puis, il nous a délivrés. Il nous a accordé le permis de construire que tout le monde pensait nous refuser. Et puis, on était là. Et puis, on a chanté le psaume 126. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, dans la joie, dans la joie. On disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et c'était les paroles du maire, c'était les paroles des adjoints, c'était les paroles de l'urbanisme, c'était les paroles de ceux de la préfecture qui n'en croyaient pas leurs yeux. C'est vrai, vous n'auriez jamais dû rentrer et vous y êtes. C'était aussi le commentaire des autres églises, de ceux qui ont prié pour nous et qui nous ont assistés dans cette difficulté. Voyez-vous, ça c'était notre cantique nouveau. Nous sommes dans la joie. En chantant des cantiques anciens, parfois on chante des cantiques de Luther, 16e siècle, nous montrons que notre foi s'inscrit dans une histoire, notamment celle de la réforme. Mais en chantant des cantiques nouveaux, nous montrons que notre foi est vivante et actuelle. Comment les auteurs de cantiques composent-ils? Je crois que la plupart écrivent suite à des expériences personnelles. Ils vivent quelque chose et alors ils veulent le mettre par écrit, ils veulent louer Dieu pour cela. Le cantique que l'on chante régulièrement, « Mon secours est en toi hein, » du pasteur Sébastien Korn. C'est un morceau qui est lié au décès de son cousin. Son cousin, même âge que lui, est mort dans un accident de moto. Il était lui-même effondré. Quand il est monté dans l'avion pour aller à ses obsèques, il était brisé. Il comprenait plus rien. Et puis, il a composé ce cantique. mon secours est en toi. Et c'est un cantique qui a fait tellement bien à tellement de personnes. Pourquoi ? Mais parce que c'est, il nous montre qu'on peut trouver, comment est-ce qu'on trouve notre secours en Dieu dans les moments les plus difficiles. Ça, c'est un cantique nouveau. Quelque chose qui console, soutient, encourage nos cœurs. Et puis, le psaume dit aussi, dites parmi les nations. Nous avons besoin de comprendre que la louange est le but de la mission. Nous partons en mission pour que les gens apprennent à louer Dieu par leur vie transformée. Nous voulons que tous les habitants de la terre louent le Seigneur parce que leur bonheur dépend de la connaissance de Dieu et de son salut. Mais la louange, c'est aussi le moteur pour la mission. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous motiver. Si nous louons le Seigneur pour ce qu'il est et ce qu'il a fait, nous allons être saisis, animés par la vérité. Et alors, tout naturellement, nous voudrons les faire connaître aux autres, à tous les peuples. C'est la passion pour Dieu qui provoque l'élan missionnaire. Et la passion pour Dieu, elle vient quand on place Dieu sous nos yeux et quand on commence à célébrer ses louanges. C'est là que ce qu'il est entre, pénètre nos cœurs et nous pousse ensuite à partir proclamer qui il est aux nations. Là où la passion pour Dieu est faible, le zèle pour la mission est faible. Les églises qui ne sont pas centrées sur l'exaltation de la majesté, de la beauté de Dieu, auront difficilement le désir fervent de raconter sa gloire parmi les nations. L'aspect le plus important de la mission, c'est la place accordée à Dieu dans la vie de l'Église. Là où les gens n'ont pas été touchés par la grandeur de Dieu, comment pourront-ils être employés et envoyés avec ce message puissant ? Car l'Éternel est grand et il est très digne de louange, comme le dit le verset 4. Il est redoutable plus que tous les dieux. Par nos chants, disons parmi les nations sa gloire, c'est-à-dire toute sa majesté, sa splendeur, ses merveilles, toutes les raisons d'admirer et de louer Dieu, notamment ses actes en tant que créateur, en tant que celui qui pourvoit à nos besoins, en tant que rédempteur, en tant que Dieu souverain, comme il est dit au verset 10. C'est pourquoi la terre est ferme, parce qu'il est là, parce qu'il garde la terre, parce qu'il il la tient entre ses mains. Mais nous annonçons aussi combien il est grand et redoutable, comme il est dit au verset 5, par-dessus tous les dieux. Non pas qu'il y ait d'autres dieux, hein, c'est plutôt une façon poétique de nier l'authenticité de tous les autres dieux. L'hébreu emploie ici un jeu de mots intéressant, je trouve, il dit dans le verset 5, « Car tous les dieux, Elohim, des peuples, sont des idoles. » Et le mot pour idole ici, c'est « Elilim », littéralement « des riens ». Tous les dieux des peuples, tous les Elohim sont des Elilim, des riens. C'est vide, c'est creux. Alors que l'Éternel, lui, il a fait les cieux. Vous vous rendez compte, les idoles, ce sont des choses que l'homme s'est fabriqué et qu'il adore. C'est complètement stupide. On fabrique nos trucs, que ce soit notre religion, que ce soit puis on se prosterne devant. Ça n'a aucun sens. Mais Dieu, il a fait les cieux. Celui qui a fait ce que nos télescopes les plus puissants n'arrivent pas à sonder, l'univers tout entier. Comment est-ce qu'il ne prendra pas soin de vous? Combien il ne va pas vous garder? Il est infiniment grand, puissant et sage pour faire tourner l'univers. Alors il est suffisamment grand, puissant et sage pour conduire votre vie parfaitement. Par nos chants, nous disons à tous, prosternez-vous devant l'éclat de sa sainteté. Verset 10, l'Éternel règne, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Verset 13, il vient. Voilà notre message. Par notre louange, nous rappelons que notre Dieu est saint. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Il rendra une justice parfaite. Il y a de quoi vraiment trembler devant lui, comme il est dit ici. Si nous devons entrer en compte avec lui, nous sommes mal parce que nous sommes pécheurs et qu'il est saint. Nous sommes injustes, il est juste. Et puis, notre Créateur n'est pas impressionné par nos œuvres. On n'achète pas sa faveur par nos pratiques, par nos sentiments religieux. On ne corrompt pas le juge de ce monde par un peu d'argent. Aucune créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert à celui à qui nous devons rendre compte, dit la parole de Dieu. Le verset 8, dans l'Ancien, il est dit, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple voulait s'approcher de Dieu, il était tellement conscient de son indignité qu'il devait venir avec une offrande, un sacrifice. La plupart du temps, c'était un agneau, sans défaut, qui était offert et son sang couvrait quelque part sa nature de pécheur, la nature de celui qui offrait devant Dieu. Aujourd'hui, on n'offre pas d'offrande. On ne fait pas de sacrifice. Pourquoi ? Parce que Jésus, lui, il est notre offrande. C'est lui, l'agneau parfait qui a été offert en sacrifice pour nos fautes. Et il nous rend acceptables par Dieu simplement à cause de son offrande à lui. C'est ce qu'on a partagé avec la scène ici. On s'est simplement rappelé de ce qu'il avait fait pour que nous, on puisse nous présenter devant Dieu. Quand on fait une offrande avec notre argent, c'est simplement l'expression de notre joyeuse reconnaissance. Mais en réalité, nous célébrons simplement l'offrande de Dieu. Et c'est ce que nous chantons, l'Évangile. C'est ce que nous annonçons parmi les nations, l'Évangile. Jésus a payé le prix de nos fautes en mourant sur la croix. Il efface totalement la peine de nos péchés. Nous n'avons pas besoin de craindre Dieu, sa justice, elle est pleinement satisfaite. Il n'y a rien à faire, simplement se reposer sur ce que lui a fait déjà à la croix. Certains trouvent ça tellement simple, et pourtant ils ne le font pas. C'est une offre étonnante, certes. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'embrouille. Mais si vous saisissez la splendeur de l'Évangile, alors vous allez louer Dieu de tout votre cœur. Si vous comprenez ce qu'il a fait pour vous, vous ne pourrez pas tenir vos bouches fermées. Vous célébrerez Dieu de tout votre cœur, avec vos chants, avec votre vie entière, et vous allez partager au monde entier la grandeur de son amour. Et puis enfin, le psaume dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car il vient » dans les versets 11 à 13. Il y a encore un élément essentiel à la louange et à la mission, c'est la joie. La joie. Nous annonçons l'Évangile. L'Évangile, le mot Évangile, ça signifie « bonne nouvelle ». Nous annonçons une bonne nouvelle. Nous sommes envoyés en mission pour simplement proclamer une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle et ce n'est pas un bon conseil. Quelle est la différence entre une bonne nouvelle et un bon conseil ? Un conseil concerne un événement qui n'a pas encore eu lieu et dont vous pouvez influencer le résultat. Je vous conseille de travailler pour le bac parce que c'est encore à venir. Une bonne nouvelle, c'est un rapport de quelque chose qui a déjà eu lieu et que vous ne pouvez pas changer. La bonne nouvelle, pour ceux qui ont passé le bac en 2018, vous l'avez eu. Vous êtes bachelier. Peut-être que vous n'avez pas encore le diplôme, mais vous l'avez. Et plus rien ne peut changer. Vous l'avez. Et ça, vous avez de la joie. Voici une illustration qui peut nous aider à comprendre la différence. Elle est tirée d'un message de Martin Lloyd-Jones qui a été cité par Tim Keller. C'est l'histoire d'un roi qui sort défendre ses sujets et affronte une armée qui envahit son pays. Si le roi remporte la victoire contre l'envahisseur, alors il envoie des messagers à la capitale, des porteurs de la bonne nouvelle. Ils courent aussi vite que possible et ils arrivent dans la ville et ils disent « Le roi a gagné, la victoire nous est offerte, réjouissez-vous » Maintenant, si le roi perd Et si l'envahisseur continue à avancer, le roi envoie, cette fois-ci, des conseillers. Et ils arrivent dans cette ville et il dit, le roi n'a pas gagné. Alors maintenant, il va falloir vous débrouiller tout seul. Mettez-vous sur les remparts, mettez des archers ici, préparez des cavaliers, fortifiez les murs. Faites. Voyez-vous, toutes les religions envoient des conseillers. C'est-à-dire des gens avec ce même message, si vous voulez être sauvé, vous devez vous battre, vous devez vous défendre. Il s'agit de conseils. Voici les rites, les traditions, les lois, les efforts que vous devez tenter. Beaucoup de prières avec la tête par terre ou contre un mur. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Mais la foi chrétienne, elle nous a envoyé un héros qui nous annonce, des évangélistes qui nous annoncent une bonne nouvelle. Jésus a déjà remporté la victoire. Il a payé pour toutes nos fautes. Le ciel nous est acquis. La victoire est là. Ça change tout. Alors, en attendant que le roi vienne, les habitants de la ville vont naturellement vouloir mettre les choses en ordre dans la ville pour accueillir dignement le roi. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous voulons une vie qui lui plaise parce que bientôt il vient. Et on voudrait que nos vies célèbrent notre roi, celui qui a remporté la victoire pour nous. C'est important de comprendre que celui qui annonce la bonne nouvelle est le conseiller militaire suscite une grande réaction parmi les habitants. Des deux côtés, il y a une grande réaction. Mais l'une est principalement une réponse de joie et l'autre principalement une réponse de crainte. Quand on a compris que tout est déjà accompli par Jésus-Christ, on veut obéir aux 10 commandements, on veut prier, on veut vivre des vies qui plaisent au roi. Mais d'un autre côté, les conseillers religieux disent qu'il faut vivre une bonne vie pour se sauver et pour aller au ciel. Alors on obéit aux commandements, on prie. Mais d'une certaine manière, on fait pareil. Oui, mais la motivation, elle, est très différente. Dans l'une, on est motivé par la joie. Dans l'autre, par la peur. L'une conduit à la liberté et à la vraie sainteté. L'autre conduit à toutes sortes de problèmes. La propre justice, la culpabilité parce qu'on n'en a pas fait assez ou qu'on s'est trompé, un manque d'assurance, la peur de n'avoir jamais fait suffisamment. L'une conduit à chanter les louanges du Seigneur pour sa victoire, à rendre gloire et honneur au Seigneur de tout notre cœur. L'autre vit dans la crainte, sous des lois, des obligations, et ne chante pas, ou bien sans ferveur, juste parce qu'il faut chanter. Comprenez pourquoi la louange enthousiaste, joyeuse, est essentielle dans l'œuvre missionnaire. Nous chantons la victoire. Nous chantons la victoire. Ici, dans les versets 11 et 12, vous avez vu ce qu'il dit, le psalmiste, il dit « Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. » Il est en train de dire, mais toute la création, les arbres, sont dans la joie. Ils soupirent eux aussi après la venue du roi. Parce qu'il va rétablir une harmonie parfaite. La question c'est, si toute la création est dans la joie, est-ce que nous, on l'est aussi? Est-ce que cette joie anime nos cœurs véritablement? Est-ce que vous vivez dans une constante frustration parce que les gens ne font pas comme vous voudriez? Où il manque toujours quelque chose ou quelqu'un pour être satisfait? Vous vivez dans la crainte parce que vous pensez qu'il faut encore faire beaucoup pour plaire à Dieu. Ou est-ce que vous êtes dans la joie parce que Dieu vous a parfaitement aimé, il vous a accordé une pleine victoire et qu'aujourd'hui vous pouvez le chanter. Oh, réjouissez-vous, il vient, il a déjà tout accompli. Juste, je termine avec cette question. Où est-ce que vous en êtes avec le chant? Dans votre cœur, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que le dimanche, vous venez avec cette pensée, bon, au début ça chante, c'est pour attendre les derniers. Parfois ça dure trois quarts d'heure pour attendre vraiment les derniers. Et puis après, il y a le message et non. Quand on vient ici, c'est vraiment pour faire éclater nos cœurs de joie devant Dieu. Et se rappeler de tout ce qu'il a accompli pour nous. Se rappeler de qui il est, parce que notre bonheur dépend de notre compréhension de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Et nos chants expriment ces choses. Peut-être qu'il faut se repentir des fois de ça. Notre Église a une vision, on l'a souvent citée, faire par l'Évangile dans Toulouse métropole et dans le monde entier des disciples de Jésus-Christ qui célèbrent la gloire de Dieu par leur vie transformée et la joie de le servir en Église. Et pour accomplir cette vision, cette mission, eh bien, nous cherchons, avec l'aide du Saint-Esprit, à former une église qui célèbre Dieu avec une louange enthousiaste. Ça, c'est une de nos valeurs. Une église qui célèbre Dieu avec enthousiasme. Une autre valeur, c'est une église missionnaire qui annonce l'évangile partout dans le monde, qui envoie des ouvriers dans le monde. Véritablement, on accomplit cette vision lorsqu'on est réunis ici et qu'on célèbre de tout notre cœur notre Dieu par nos chants. Alors, vraiment que cette joie remplisse votre cœur, que les paroles que l'on chante soient vraiment l'expression de vos cœurs, l'unité tous ensemble de notre Église exprimant notre sentiment à l'égard de Dieu. Chers amis qui peut-être découvrez l'Église, la foi chrétienne, peut-être vous avez quand même perçu beaucoup de joie et puis d'enthousiasme dans notre louange. Et peut-être que vous avez perçu que comme dans le psaume 96, combien notre Dieu est grand et bon. Et vous avez compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ venu pour vous pardonner, vous délivrer de vos ennemis, que sont le péché, le diable, la mort. Et vous voudriez aussi vous tourner vers lui pour l'adorer à votre tour. On vous invite à le faire, vraiment, à tourner vos cœurs vers Dieu, à lui dire combien vous l'aimez et combien vous êtes reconnaissant pour le salut qu'il vous offre en Jésus-Christ. De sorte que Dieu nous réjouisse tous dans sa présence et que dans le chant, il ravive la flamme de notre amour pour lui, de sorte que les peuples de la terre, encore dans les ténèbres, puissent voir briller la splendeur de sa personne et de son évangile. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta personne. Tu es en effet admirable. La splendeur et la magnificence sont devant ta face. La gloire et la majesté sont dans ton sanctuaire. Tu nous as tellement aimés en Jésus-Christ qu'il s'est livré à la croix pour nos fautes, de sorte qu'on puisse être réconciliés pour toujours avec toi et connaître une glorieuse espérance pour l'éternité dans ta présence. Merci parce que tu vas toi seul satisfaire, combler nos cœurs. Seigneur, on voudrait apprendre avec toute la création à te rendre un peu de gloire, dans ce qu'on se réunit et qu'on te chante, Seigneur. Nous voulons te prier pour que tu ravives notre flamme à l'aube de cette convention missionnaire. Nous te prions pour que nos cœurs soient brûlants, Seigneur, et se laissent encourager par les prochains week-ends, de sorte qu'on puisse partir en mission, là, à proximité, mais aussi au loin. Et Seigneur, nous voulons que tout cela, ça serve à ce que d'autres nations, d'autres cœurs, d'autres vies soient transformées et célèbrent à leur tour la gloire de ton œuvre, la gloire de Jésus-Christ, la gloire de ta personne. Reçois notre adoration encore par Jésus-Christ. Amen.